15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Avec le docteur Jimmy Mohamed, chaque jour, pendant une heure, nous répondons à vos questions sur les sujets santé qui vous préoccupent. D'ailleurs, il est là dans le studio avec moi, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la beauté d'une partie de notre corps dont on ne parle pas souvent, la beauté de nos fesses. La médecine et la chirurgie esthétique disposent désormais de nombreuses techniques pour les rendre plus bombées, plus fines, plus rondes. Enfin, quel que soit votre souhait, il est possible d'y remédier. Une émission culottée aujourd'hui dans Sans Rendez-vous. Et sur ce sujet, notre invité, ce sera le docteur Philippe Levent. Il est chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Ensuite, avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours, depuis que le coronavirus est plus calme, en France, nous répondons à vos questions, mais donc celles aussi qui concernent vos petits et gros bobos du quotidien. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle nous parlera de ses confessions sur nos expériences précédentes que l'on peut raconter parfois à son conjoint et dont finalement, on devrait peut-être se passer.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant ça, pour ouvrir votre magazine santé avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions autour du coronavirus. On en reçoit encore pas mal. On va commencer par celle de Mireille. On l'écoute.
Bonjour Mélanie et Jimmy. J'ai une question toujours au sujet du Covid par rapport à la brigade de la CPAM. Et je travaille dans une entreprise où on est 9 salariés. Si quelqu'un est dépisté parmi les 9 salariés, est-ce que comment on va tous être mis en quarantaine tous les 9? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est obligé de fermer notre petite entreprise. Donc voilà, je vous remercie de répondre à ma question. Et je voulais vous préciser, Mélanie, j'adore votre rire qui est très porteur. Rien que de vous entendre rire, ça me fait sourire. C'est agréable. Merci et bonne journée à tous.
Oh, merci beaucoup Mireille. C'est vrai qu'on rigole pas mal en ce moment, mais je crois que Jimmy et moi, on lâche un petit peu de tension peut-être des quelques semaines accumulées. C'est des sujets un peu compliqués en ce moment. Alors justement, on a toujours donc une question coronavirus. Jimmy, une question pratique donc de Mireille. Comment ça se passe pour elle si effectivement dans son entreprise où ils sont 9, il y en a un qui est positif?
Alors c'est vrai qu'il y a souvent des enjeux économiques derrière parce que comme elle le dit, si les 9 sont mis à l'isolement, eh bien l'entreprise risque de fermer. Alors évidemment que tous ne vont pas être mis en quarantaine. La seule chose, c'est que lorsqu'une personne est malade, on fait une enquête autour de cette personne. Et donc, si vous êtes en contact répété de plus de 15 minutes à moins d'un mètre, vous faites partie des gens qui sont à risque de développer le Covid. Donc, si la personne qui est à l'accueil n'est pas en contact avec la personne malade, il n'y a aucune raison de la mettre à l'isolement. Et puis, c'est une enquête qui est faite justement par ces brigades, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais de la Sécurité sociale, qui permet d'évaluer le risque. Et à ce moment-là, vous avez un arrêt maladie pour vous mettre à l'isolement. Donc, vous pourrez être indemnisé à titre personnel. Et puis, au 7e jour, on vous propose de faire une PCR, un prélèvement nasal, puisque si on le faisait tout de suite, il risque de revenir négatif à tort.
Alors qu'il faut un peu incuber la maladie avant que vraiment elle ressorte.
Donc, c'est vraiment plus de 15 minutes à moins d'un mètre. Donc, s'il y a des distances, si vous êtes à plus d'un mètre, eh bien, on va pas mettre à l'isolement tout le monde. Encore heureux.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors justement, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe finalement en matière de transmission, vous vouliez nous parler d'une étude qui a été publiée dans la revue scientifique Thorax par des chercheurs australiens qui ont été mi-mars sur un paquebot. Alors le paquebot, au départ, c'était pour faire la croisière, direction l'Antarctique. Et justement, pendant cette croisière, il y a une épidémie coronavirus qui est sortie.
Exactement. Au moment où l'OMS a décrété l'état d'urgence sanitaire à propos du coronavirus, eh bien, avant d'embarquer, ils ont screené tous les patients pour savoir s'ils avaient de la température ou s'ils revenaient d'une zone à risque. A priori, tout allait bien, sauf qu'au bout d'une semaine, un des passagers tombe malade, il a de la fièvre, il est mis à l'isolement, il porte un masque. On pense que les choses sont contrôlées, sauf que 3 semaines plus tard, 217 des passagers présents sont testés et 128, c'est-à-dire 60% des gens, vont avoir une PCR positive à Covid, alors qu'on pensait avoir jugulé les choses.
C'est plus la croisière s'amuse là.
Et non, sauf que ce qui est encore plus traître, c'est que parmi ces personnes positives, 80% d'entre elles n'ont aucun symptôme. Elles sont asymptomatiques. Et donc, elles sont asymptomatiques, mais porteurs du virus, raison pour laquelle celui-ci va se propager plus facilement. 20% vont être positifs. Ce qu'on peut en tirer de cet enseignement, c'est qu'à une époque, on avait dit que les masques ne servaient à rien. Je ne pense pas que c'était un mensonge d'État. On ne savait pas qu'il y aurait autant de personnes asymptomatiques et que ces personnes, parfois, pouvaient être en période d'incubation et contagieuses. Et donc, on a appris énormément de choses, raison pour laquelle il ne faut pas tout de suite relâcher nos efforts. Soyons patients, continuons de mettre des masques, même s'il fait chaud. Bon, alors, la météo est un peu capricieuse, mais il faut patienter parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons une seconde vague. Heureusement, elle n'arrive pas pour l'instant.
On est dans la queue de l'épidémie, comme le disent certains, mais effectivement, le virus circule toujours. Il faut le garder en tête, donc les masques restent encore importants. Autre question, Jimmy, qu'on a reçue donc, de Karina, qui nous l'a posée sur notre répondeur. On va l'écouter tout de suite.
Bonjour Mélanie, bonjour Dr Dini Mohamed. Depuis le 2 juin, les terrasses sont réouvertes. Moi, j'habite à Paris et j'ai l'impression que les gens y sont agglutinés. Moi, j'ose pas encore y aller parce que j'ai l'impression qu'on court quand même un risque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup.
Dimi, alors les terrasses, avec cette météo, malheureusement, il ne doit pas y avoir foule, hein, surtout en Île-de-France où on peut ouvrir que les terrasses. Mais donc, on a quand même une petite pensée pour les restaurateurs d'Île-de-France, avec cette météo pourrie, il faut le dire. Pour revenir quand même sur la question de Karima, donc pour le risque, je ne sais pas, en terrasse, vous en pensez quoi ? Les gens peuvent être à 10 sur des tables, sans masque a priori.
Sur une terrasse pour boire, je ne veux pas qu'on me voit pour mettre un masque, il faut être un peu pragmatique. Le risque est quasiment faible, puisqu'on est dans un espace extérieur et souvent... Normalement, on prend des verres avec des gens souvent d'une cellule intrafamiliale, donc pour ça, il n'y a pas de risque.
Avec les collègues
à ce moment-là,
là, c'est plus la famille.
Le risque est quasiment nul. Il existe, il est théorique, mais il est vraiment faible. Si on regarde ce qu'ont fait les Japonais, ils ont identifié les 3 C, c'est en anglais. 1 pour close contact, les contacts rapprochés, close spaces pour les endroits clos et crowd pour la foule. Et donc, si on cumule ces 3 données, on a un risque plus important de rattraper le coronavirus. Et donc, celui-ci est plutôt mineur dans les terrasses. Donc, il faudrait peut-être qu'on retrouve une vie un peu normale.
Très bien, Dimi. Allez, on va prendre une dernière question. C'est celle de Fanny de Montpellier qui voudrait avoir votre avis sur la fameuse appli Stop Covid. Elle demande si ça vaut vraiment le coup de la télécharger, surtout étant donné que le virus circule presque plus maintenant. Dimi, vous en pensez quoi de cette appli ?
Alors, initialement, on pensait que cette application allait tous nous sauver et que si on n'avait pas de tracking, de traçage, eh bien, on ne pourrait pas suivre l'épidémie. On se rend compte que ces brigades de l'assurance maladie font leur travail correctement. On a de très peu de cas, mais ceux qu'on a, on arrive facilement à faire ces enquêtes autour des personnes. Et donc, finalement, on pense ne plus avoir besoin de cette application. Donc, la vérité est peut-être entre les deux. Typiquement, vous partez en vacances peut-être prochainement, vous prenez le train, vous allez rester 2, 3, 4, 5 heures dans un environnement clos. Il n'y aura plus cette règle de 1 siège sur 2, donc on sera plus proches les uns des autres. Et si par malheur, quelqu'un avait le Covid durant le transport, mais que vous êtes alerté par cette application, eh bien cette personne, vous n'avez pas son numéro de téléphone, mais sauf que si c'est détecté, eh bien on va pouvoir vous contacter. Et donc l'intérêt est peut-être là pour des gens que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous allez partager du temps. On parlait tout à l'heure des restaurants, mais imaginez dans un restaurant, lorsque les terrasses sont là, elles sont ouvertes, mais ensuite on va pouvoir s'installer à l'intérieur. Si on est proche d'autres personnes qui ont eu le coronavirus,
alerté, le savoir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on a croisé,
exactement.
C'est intéressant, effectivement.
Surtout qu'il n'y a pas de données de géolocalisation, on ne va pas garder vos données pendant 107 ans. Le but, c'est simplement d'alerter. Donc, c'est un moyen supplémentaire.
Donc, vous la conseillez plutôt de la télécharger.
Même si on sait que le rendement est plutôt faible, si on s'intéresse à ce qui s'est fait à Singapour, seuls 20% de la population a téléchargé cette application et ça ne suffit pas pour avoir un contact massif des personnes. Mais dans certaines situations, on pense que ça peut être une aide supplémentaire. Bien sûr, chacun est libre. Si vous ne voulez pas, personne ne vous forcera. Mais c'est simplement un outil supplémentaire pour vous alerter et puis vous mettre à l'isolement et peut-être protéger les autres aussi.
Merci beaucoup, Dimi, pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Philippe Levent. Il est chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Avec lui aujourd'hui, nous allons tout vous dire sur la beauté des fesses. De nombreuses techniques esthétiques de chirurgie permettent par exemple d'avoir un fessier plus rebondi. C'est souvent ce que demandent les patients. On vous explique tout dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Philippe Levent. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Avec vous aujourd'hui, on va parler des fesses. Alors d'abord, docteur Levent, c'est si important pour les gens d'avoir de belles fesses. On a l'impression que, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est surtout à la mode au Brésil, dans les pays où on les exhibe finalement peut-être un peu plus. Mais en France, ça y est, on peut dire vraiment qu'il y a une demande ?
Oui, absolument. Depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, il y a quand même un engouement. Pour tout ce qui est embellissement des fessiers. C'est vrai, ce que vous dites il y a quelques années, c'est plus quelque chose qui est plus propre aux pays chauds, voilà, où les corps sont un peu plus dénudés. Mais maintenant, avec la mondialisation, Internet, Instagram et tout ça, donc on assiste quand même à un lissage de tout ce type de demande. Et évidemment, on a aussi maintenant en France des demandes de plus en plus importantes de chirurgie des fesses.
Pourquoi les fesses ? Parce que c'est donc, je ne sais pas, les demandes qui viennent, c'est pour dans une envie de séduction, pour le bien-être. Enfin, c'est quoi qui ressort dans les
bien
personnes
sûr,
qui viennent pour ça ?
Pour les femmes, hein, parce que bon, c'est vrai que l'essentiel des patients, ce sont des patientes. Et pour les patientes, c'est vrai que les fesses, c'est quand même un atout de féminité majeur, hein, important, au même titre que les seins. Donc c'est vrai que parmi les patientes jeunes, aujourd'hui, on assiste effectivement beaucoup à une demande de chirurgie au niveau des fesses par rapport à il y a quelques années. C'est vrai que c'est loin d'être un phénomène de mode, hein, parce que c'est quelque chose maintenant qui est assez constant, qu'on voit augmenter de manière régulière depuis 4 ans. Hein, parce que le nombre des procédures en France, par exemple, depuis 4 ans, a été quand même multiplié par 4.
Justement, ça fait combien d'interventions par an à peu près ? Enfin, je ne sais pas.
Alors, ça reste quand même une chirurgie de niche hein, par rapport à la chirurgie mammaire ou à d'autres parties du corps ou à d'autres types de techniques comme la liposuction et tout ça. Donc, pour l'instant, on recense environ 12 500 procédures en France.
Quand même, oui.
12 500, voilà, ça peut paraître peu, comme ça peut paraître beaucoup. Alors, au sein de ces 12 500, il y a 20% de prothèses, on va dire, et puis le reste, c'est des injections, soit l'injection de graisse ou l'acide hyaluronique.
On détaillera ça après. Docteur Jimmy Mohamed.
On associe parfois à tort chirurgie esthétique et femmes d'âge mûr. Est-ce que les femmes qui veulent se faire opérer des fesses, elles sont un peu plus jeunes que la moyenne ?
Oui, absolument, absolument. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même plus des jeunes femmes. Hein. Je dirais que l'âge moyen maintenant des demandes pour les fesses est autour de 30 ans. Voilà, je dirais même la tranche des 25-30 ans. Voilà, pour ma part, c'est ce que je constate.
D'accord. Et vous disiez donc des femmes, il y a quand même quelques hommes qui viennent, oui ou pas du tout ?
Oui, après c'est assez anecdotique, bien sûr. Mmh. Il y a toujours, nous en chirurgie esthétique, d'une manière générale, 10%. Des demandes, c'est des patients. C'est des patients oui. Donc pour les fesses, je dirais que c'est à peu près la même chose.
Petite question d'histoire, entre guillemets. C'est vrai qu'on fait souvent des émissions sur la chirurgie esthétique ici, hein, je veux dire. Mais pour les fesses, j'imagine que c'est pas, peut-être, ça n'existe pas depuis aussi longtemps que ça. Parce que je sais qu'on refaisait des nez déjà il y a très très longtemps. Mais les fesses, c'est arrivé quand à peu près ?
Alors, effectivement, on a l'impression que c'est nouveau. Mais bon, je dirais que c'est depuis les années 50-60. On trouve des traces de publication. Oui, absolument. Je veux dire, alors après, c'est pas aussi codifié que maintenant. On retrouve une publication d'un chirurgien américain dans les années 60 qui mettait des prothèses mammaires pour augmenter les fesses, par exemple.
Dingue, je pensais pas du tout.
Donc voilà, ça avait commencé un petit peu comme ça. Donc c'est un peu artisanal au début. Hein. Et la vraie chirurgie des fesses encadrée, réglementée, avec des prothèses spécifiques pour les fesses, je dirais que ça date. Du début des années 2000, hein. Voilà, fin des années 90.
Oui, mais quand même, les premières prothèses de fesses dans les années 50-60, incroyable. Jimmy,
toute chirurgie présente évidemment un risque. Est-ce que celle de la chirurgie des fesses est plus risquée qu'une autre intervention de chirurgie esthétique ?
Alors, toutes les chirurgies sont risquées. Toutes les chirurgies ont leurs risques spécifiques. Je dirais que, bon, la chirurgie des fesses, vous avez vu qu'il y a quand même plusieurs techniques. Hein. Il y a les prothèses, il y a aussi ce qu'on appelle le lipofilling. C'est le transfert de graisse, et puis il y a les produits injectables. Donc aujourd'hui, le risque majeur concerne non pas les prothèses, mais les injections de graisse, parce que c'est vrai que depuis 5 ans, on assiste à une augmentation assez phénoménale de demandes à travers le monde.
Oui, ça paraît moins invasif comme ça, de se faire injecter de
voilà,
la graisse.
Voilà, ça paraît moins invasif. Ouais. Voilà. Donc la technique s'appelle en anglais « Brazilian boot lift ».
Brazilian boot lift, ok.
Donc, voilà, donc ça consiste en réalité simplement à injecter de la graisse. Il n'y a rien, il n'y a pas de résection de peau ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Et il y a une demande énorme de la part des patients, des patientes. Et puis, c'est vrai que ce type de chirurgie peut être risqué au sens où, effectivement, la graisse injectée n'importe comment à des quantités trop importantes chez des patientes fragiles, ça peut entraîner quand même des décès. On recense maintenant à travers le monde, avec cette technique, quand même un décès pour 3000 cas, ce qui est absolument énorme.
Ah oui, quand même,
à tel point qu'en Grande-Bretagne, je crois que ça a été interdit récemment. Nous, pour l'instant, en France, on peut le faire, on peut le faire
raisonnablement
encadrer.
Ouais.
Les patientes doivent veiller à ce que leur chirurgien sache le faire. D'où l'intérêt des sociétés savantes comme la SOFCEP, hein, qui regroupe quand même des chirurgiens hautement qualifiés, inscrits au Conseil de l'Ordre. Donc c'est quand même un gage de sérieux par rapport à ce qu'on peut proposer.
Juste pour terminer sur ce point-là, on se retrouve juste après, mais c'est la bonne période là pour le faire ou c'est un peu tard pour exhiber ses fesses cet été sur la plage ?
Alors écoutez, je veux dire, si vous comptez aller à la plage dans 3-4 semaines, c'est peut-être un peu tard, parce que sinon, sauf si vous partez pour être en convalescent. En convalescence, pardon, mais c'est vrai qu'il vaut mieux le faire au moins trois mois avant l'été, c'est quand même plus confortable.
Merci beaucoup, docteur Levent. On n'en a pas terminé avec vous, évidemment, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, on rentre un peu plus dans le détail. Que peut-on réellement proposer aujourd'hui pour avoir des fesses plus rebondies, plus lisses, même peut-être, je ne sais pas. Faut-il systématiquement passer au bloc pour des implants ou y a-t-il d'autres méthodes moins invasives? Nous allons vous détailler tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et vous, aujourd'hui, docteur Philippe Levent. Vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors, docteur Levent, on va passer au vif du sujet, à l'aspect plus technique, on va dire des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention? Alors, vous avez déjà un petit peu donné quelques idées. On a compris qu'il y avait plusieurs possibilités. Les implants, les injections de graisse, c'est quoi? Il y a trois possibilités. Redites-nous un peu.
Alors, grosso modo, oui, il faut retenir qu'aujourd'hui, il y a trois techniques sérieuses qui existent, donc qui sont les implants fessiers ou les prothèses de fesses, l'injection de graisse ou le transfert de graisse, la même chose, et puis l'utilisation de produits de comblement type acide hyaluronique, substance synthétique.
Alors, je reviens juste sur les injections de graisse, on va conclure sur ça parce qu'on a déjà un petit peu parlé. C'est sa propre graisse, on est d'accord que l'on transfère. Je ne vais pas prendre la graisse de Jimmy Mohamed, qui en a beaucoup sur le ventre, par exemple, pour me l'injecter dans mes propres fesses. Non, ça ne se fait pas, ça.
Malheureusement, effectivement, on ne peut pas donner sa propre graisse, mais c'est... Vous dites ça, mais en fait, on le voit à toutes les consultations, il y a toujours la copine qui en a trop, qui aimerait bien donner.
Moi, j'en ai trop, prenez la mienne. C'est bon, ça.
Et non, malheureusement, on ne peut pas... Voilà.
Vous la prenez où, la graisse, pour la mettre dans les fesses, en général?
Alors, il faut savoir qu'on a besoin quand même des quantités assez importantes pour augmenter le volume des fesses, en plus de fesses. Donc, vous imaginez que, donc on en prend là où
il y en a. Dans le ventre,
j'imagine,
ouais.
Ça peut être sur la culotte de cheval, sur les cuisses, les genoux, les hanches, l'abdomen, bien sûr. À ce propos, je tiens quand même à prévenir les patientes qui ne répondent pas tout à fait aux conditions pour ce type d'intervention, a priori, enfin en l'occurrence les patientes minces, qu'il ne faut pas partir sur ce type de technique parce que sinon elles vont avoir des séquelles sur les types de prélèvements. On n'en parle jamais de ça, mais voilà, si vous n'avez pas assez de graisse, ne partez pas sur cette technique-là parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des idées préconçues, qui veulent absolument avoir une injection de graisse et pas des prothèses, alors qu'elles ne répondent pas aux conditions pour pouvoir faire ça.
Et pour remplir des fesses, il faut avoir suffisamment de graisse. Donc si vous êtes
absolument
trop belle,
ce serait bien dommage d'avoir de belles fesses et d'avoir des creux sur tout le reste du corps. Voilà.
Jimmy.
Mais quand on parle de justement ces injections, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans la vie d'une femme ou même d'un homme, il y a des variations de poids, ça peut être lié à la grossesse ou des événements de la vie. Qu'est-ce qui se passe justement si ces femmes perdent du poids ou au contraire en gagnent après une intervention?
Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de graisses. Il y a des graisses qui sont assez... qui ne varient pas trop avec le poids. La graisse au niveau des seins, la graisse au niveau du visage. Et puis, il y a des graisses, effectivement, qui fluctuent un petit peu plus avec le poids, comme la graisse de la ceinture abdominale. Bon, toute proportion gardée, si vous faites plus 5 moins 5 kilos, en réalité, il ne se passera pas grand-chose. Vous n'allez pas voir vos fesses fondre... parce que vous avez perdu 3 kilos, donc il ne faut pas être inquiet à ce sujet. Effectivement, par contre, si vous prenez 10 kilos, forcément, vous en aurez plus, et si vous perdez 10 kilos, ça va se voir un petit peu. Mais bon, ça reste quand même assez anecdotique.
On va passer quand même aux prothèses, puisque c'est quand même ça qui a l'air, en tout cas, plus efficace et plus indiqué, notamment chez les jeunes qui sont trop minces et qui ne peuvent pas bénéficier de ces injections de graisse. Là, ça se passe comment? Elles veulent quoi en général, d'ailleurs? C'est quoi la demande? Elles veulent des grosses fesses bombées? Elles veulent les fesses de Kim Kardashian? Qu'est-ce qu'on vous demande?
Je dirais qu'il y a deux types de demandes. Il y a la majorité des demandes, finalement, sont des demandes extrêmement raisonnables. Je dirais que c'est 80, voire 90% des demandes. C'est des gens, des femmes, des jeunes femmes qui sont complexées de ne pas avoir de fesses, pas assez, et qui viennent demander quelque chose, finalement, d'assez raisonnable en termes d'augmentation. Voilà, j'ai pas de fesses, je voudrais avoir des fesses parce que je voudrais être plus féminine, je voudrais me sentir femme. Donc on part dans une augmentation absolument raisonnable avec des prothèses de volume moyen et on arrive à un résultat absolument naturel et rien ne peut laisser présager que ce sont des prothèses quand on regarde le résultat en tant que tel. Ça, c'est des demandes classiques. Après, vous avez peut-être 10-15% des demandes chez les gens, chez les jeunes femmes qui ont déjà assez de volume et qui veulent effectivement ressembler à quelques stars des réseaux sociaux, etc. qui demandent une morphologie assez particulière.
Ils veulent les fesses de Kim, quoi, on a compris.
Par exemple, je dirais, bon, c'est vrai qu'elles font parler plus ces patientes-là, mais en réalité, ça reste quand même, du moins dans mon activité, assez modeste comme demande.
Jimmy,
La pose d'implant, c'est une intervention qui dure combien de temps? Une anesthésie générale, je suppose aussi?
Alors, c'est la pose d'implant dure environ une heure sous anesthésie générale, effectivement.
C'est une anesthésie générale. Une heure, vous ouvrez à quel endroit? Comment ça se passe techniquement?
Alors, la chirurgie se fait par deux cicatrices qui se trouvent dans le pli interfessier. Donc, ce sont aussi des cicatrices qui sont cachées par le pli lui-même. Et donc, ça ne se voit absolument pas nu de dos.
Et vous demande plusieurs formes? Vous avez plusieurs formes d'implants? Je ne sais pas, comme on dit, on a les seins en poire, en pomme. Est-ce que pour les fesses aussi, vous avez plusieurs modèles?
Non, en réalité, de la même façon que... Enfin, c'est assez similaire à ce qu'on fait pour les seins. Donc, en réalité, on ne peut pas avoir tout à partir de ce qu'on a. Donc, grosso modo, si vous avez des fesses d'une certaine forme, vous les aurez en plus grand dans la même forme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux
dire. Tout à fait, c'est clair.
On ne peut pas changer de forme de fesses juste parce que...
Vous les rendez plus rebondies, quoi.
Voilà, on les rend plus rebondies, on les rend peut-être un peu moins tombantes. Voilà. Mais globalement, on reconnaît bien les fesses d'origine.
Docteur Lévent, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous parlons des suites opératoires, notamment de ce type d'intervention esthétique au niveau des fesses. Combien de temps après peut-on les montrer, entre guillemets, sur la plage? Le résultat final est-il immédiat? Quel est le coût aussi de ce type de transformation esthétique? On vous en dit plus juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Notre invité du jour est toujours là en ligne avec nous. C'est vous, docteur Philippe Levent. Vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Docteur Levent, avant de parler des suites de cette intervention au niveau des fesses, dites-nous comment on choisit le praticien? Parce que vous nous avez fait comprendre tout à l'heure quand même qu'il fallait pas s'adresser à n'importe qui puisqu'il y a quelques risques. Est-ce qu'il y a vraiment des médecins qui sont très spécialistes des fesses ou n'importe quel chirurgien peut faire des fesses?
Je dirais que... il y a peu de chirurgiens en fait qui aujourd'hui sont spécialisés dans les fesses. Il y a plus de chirurgiens qui font du lipofilling. Donc l'ensemble des chirurgiens plasticiens, je pense, savent faire du lipofilling, c'est-à-dire des injections de graisse. Mais beaucoup moins d'entre nous connaissent bien les techniques pour mettre des prothèses, par exemple. Parce que c'est une technique qui est plus complexe, les résultats sont plus longs à maîtriser, il y a une courbe d'apprentissage technique qui est quand même plus longue. Voilà.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et ce genre d'intervention, que ce soit l'injection ou la pose de prothèse, est-ce que ça se fait en ambulatoire? Et si oui, si on repart, est-ce qu'on peut reprendre une activité normale ou est-ce qu'il va falloir quand même s'arrêter quelques jours après?
Alors, habituellement, c'est plutôt en hospitalisation avec une nuit... en clinique à l'intervention. Mais bon, dans un certain nombre de cas, l'ambulatoire est tout à fait envisageable pour des lipofillings de volume modeste ou pour des prothèses chez des gens qui n'ont pas de problème de santé particulier. Après, il y a une période effectivement de convalescence qui est plus ou moins longue en fonction de temps. Bon, ça peut aller entre 10 et 10 jours, 15 jours.
Il faut prévoir quelques congés quand même.
Absolument. Ouais. Il faut prévoir quand même au moins 2 semaines devant soi pour récupérer ce type d'intervention, ne serait-ce que pour pouvoir se rasseoir normalement.
J'allais vous le dire, justement, combien de temps après, enfin je ne sais pas, quand on sort du bloc, on doit avoir mal aux fesses déjà, et peut-être dans les zones, si vous avez fait la liposuction aussi, enfin, on a mal comment, sur quelle échelle de douleur, je ne sais pas.
Alors pour tout ce qui est injection de graisse, effectivement les douleurs peuvent provenir aussi des zones de liposuction, des zones où on a prélevé de la graisse. Bizarrement, sur les zones où on injecte la graisse, il y a moins de douleurs. Voilà, c'est comme ça. Pour ce qui est des implants, effectivement, c'est un petit peu plus douloureux. Néanmoins, les médecins anesthésistes nous aident aussi à mettre des anesthésiens en retard dans la loge où on a mis des prothèses, ce qui fait qu'en réalité, quand la première nuit, ça se passe très bien.
C'est la deuxième. La deuxième, on a un peu plus mal.
La deuxième, on fait le relais.
On dort sur le ventre ou on peut dormir sur le dos?
Alors, la première nuit, on peut dormir sur le ventre et sur les côtés. Voilà. Habituellement, sur le ventre. À partir du deuxième, troisième jour, on peut essayer de se retourner. Voilà, et petit à petit, les choses reprennent leur place.
Jimmy ?
Est-ce qu'il y a des pansements ou des soins particuliers à faire pendant quelques temps ? Est-ce qu'il faut porter une gaine, d'ailleurs, après une intervention de ce type ?
Bah, écoutez, les cicatrices sont assez modestes. Hein. C'est quelques centimètres de cicatrices dans le pli des deux côtés. Donc, les pansements, ça va au plus simple. Hein. C'est juste un petit pansement à coller au milieu. Donc, il y a des soins d'hygiène, douche et tout ça. Faut savoir que les gens peuvent se laver dès le lendemain, hein, une douche intégrale. Donc, il n'y a pas de soins spécifiques par rapport à ce type d'intervention.
Et est-ce qu'il n'y a pas une rééducation à faire derrière, je ne sais pas, avec des exercices particuliers peut-être ?
Oui. Bon, c'est un peu de l'auto-rééducation qui est guidée effectivement par l'absence de douleur. C'est pour ça que c'est très important de prendre suffisamment d'antalgiques, de bien respecter les prescriptions. Parce que si on a pas mal, effectivement, on peut reprendre les mouvements plus aisément. Donc, dans les premiers jours, on travaille un petit peu la flexion des cuisses sur le tronc. Hein. C'est le mouvement qu'on a quand on s'appuie sur un tabouret de bar, par exemple.
Oui, d'accord.
Donc, au début, on ne s'assoit pas franchement sur une chaise, on ne peut pas, mais on va s'asseoir un peu avec la face postérieure des cuisses. On est en appui et petit à petit, on va fléchir un peu plus chaque jour en fonction de l'assouplissement de toute la zone. Et puis, voilà, vers le cinquième, sixième jour, parfois une semaine, on peut s'asseoir franchement sans
problème. Ça va, ça passe assez vite quand même. Jimmy ?
Voilà, donc c'est une auto-rééducation, il n'y a pas besoin de kiné particulier
d'accord.
pour ça.
Donc, auto-rééducation, mais à partir de quand est-ce qu'on peut reprendre une activité sportive normale ?
Alors, pour ce qui est. Alors, la marche peut se faire dès le lendemain, évidemment, il est déconseillé de faire des grandes balades, etc. Mais on peut sortir de chez soi, aller chercher sa baguette, revenir, etc. Donc, vous voyez qu'en termes d'autonomie, on peut la reprendre quand même assez vite. Pour ce qui est des activités plus poussées, notamment sportives, en fonction du type de sport, je dirais c'est entre 4 et 6 semaines. Voilà.
Docteur Levent, au bout de combien de temps on a les résultats ? Parce qu'on en a déjà fait une émission, nous, sur les prothèses mammaires, notamment. On sait que ce n'est pas forcément tout de suite. Il y a de l'œdème au départ, c'est un peu gonflé. Là, les fesses des résultats finaux, on l'a au bout de combien de temps ?
Je dirais, comme pour toute chirurgie esthétique, nous, les chirurgiens plasticiens, on a tendance à dire aux gens que c'est les résultats définitifs. Ça peut aller jusqu'à un an. Pour ma part, j'ai l'impression qu'entre 3 et 6 mois, le résultat est quand même assez stable. Voilà, que ça changera pas énormément. Voilà.
Jimmy ?
On va dire 6 mois.
Dernière question, toute chirurgie a évidemment un coût. Il faut compter combien justement pour ce type d'opération ?
Alors en France, je vous donne un moyen sur ce qu'on voit en fonction des régions et tout ça. Bon, ça peut aller entre 6 000 et 9 000 euros. Voilà, toutes techniques confondues.
Ça, c'est pour les implants, surtout les injections, c'est pareil ? C'est le même prix à peu près ?
Oh oui, c'est à peu près dans cette fourchette-là, oui. Après, ça dépend un petit peu du temps passé au bloc, du travail qu'il y a à faire. Il faut savoir aussi, on n'en a pas parlé, que des techniques peuvent se combiner. Hein. Par exemple, on peut mettre des prothèses et faire...
un peu de lipofilling aussi.
Un peu de lipofilling autour, hein, tout à fait. Donc, c'est sûr que voilà, ce sont des prix qui sont spécifiques à ce type d'association.
Merci beaucoup, Dr Levent, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Celles et ceux qui voudraient donc améliorer ou changer quelque chose à leurs fesses savent tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient. Ce sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé, bien-être, celles que vous nous laissez tous les jours sur notre répondeur, le 3921. On revient très vite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Tout de suite, on retrouve notre vrai faux. Vos questions santé bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Laurence.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Écoutez, je vous appelle en fait, j'ai une question à vous poser. Je suis ménopausée déjà depuis quelques années. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai moins de poils sous les aisselles, au niveau des sourcils, mais un peu plus au niveau du menton. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est normal, si ça arrive à d'autres femmes ou est-ce que j'ai un problème particulier ?
Alors Jimmy, la ménopause, hein, c'est un vaste sujet avec pas mal de petits et gros tracas. D'ailleurs, on fera une émission spéciale ménopause la semaine prochaine. Là, pour l'instant, on va répondre donc à la question de Laurence. On dit ménopause, c'est vrai qu'on pense bouffée de chaleur et autres problèmes. Là, il y a d'autres choses qui peuvent se dérégler, notamment le système pileux. C'est possible, elle n'est pas toute seule, hein, rassurez-la.
Exactement. Et puis, avant de conclure à ça, il faut évidemment parfois explorer les choses. Vous avez le droit d'avoir un problème de l'axe thyroïdien, surtout chez les femmes. Un problème de thyroïde avec une thyroïde qui marche trop fort ou pas assez fort peut évidemment vous donner en plus des troubles vasomoteurs, ces bouffées de chaleur, de la fatigue. fatigue, en plus des troubles cutanés. Vous avez le droit aussi d'avoir des problèmes au niveau de l'axe du cortisol, qui peut, lorsqu'il marche moins bien ou trop rapidement avec la maladie de Cushing, vous donner des symptômes. Et puis, vous avez le droit aussi d'avoir des problèmes au niveau hormonal avec des hormones sexuelles et qui n'a pas forcément de rapport avec la ménopause. Bref, c'est des choses qu'il faut explorer et éviter de se dire « c'est la ménopause, c'est normal ». De la même façon, on dit souvent aux femmes « c'est les règles, c'est normal d'avoir mal au ventre ». Donc, je pense que même si c'est très certainement ça, il est préférable de demander conseil au généraliste, à la sage-femme ou au gynécologue.
Et donc avec la ménopause, il peut y avoir donc des poils qui apparaissent et d'autres qui s'en vont à certains endroits, ça change de zone on va dire, mais la peau aussi je crois qu'elle peut changer. Hein.
Oui, alors il faut rappeler que le poil à la base, ça sert de protection contre les agressions extérieures et donc le corps est recouvert de millions de poils qui naissent du follicule pileux. Alors vous avez plusieurs types de poils, franchement c'est hyper intéressant, le premier il dit...
Vous êtes bon en poils cette semaine.
Ouais, cette semaine je suis très inspiré. Vous avez le poil qui est dit constitutionnel, c'est celui qui compose les cheveux, les cils, les sourcils et les membres, et celui-là n'est pas sensible aux hormones. Vous avez les poils qui poussent au niveau de la, au moment de la puberté, et donc là, vous en avez plus au niveau des aisselles et des zones pubiennes, et eux, ils sont sensibles aux hormones sexuelles. Et puis enfin, vous avez les poils masculins, qu'on dit testoïdes, qui sont plutôt durs et épais, et ceux-là, ils touchent plus le visage, les poils du nez, ou éventuellement la barbe. Et eux, ils sont dépendants des androgènes. Sauf qu'au moment de la ménopause, vous avez les œstrogènes et la progestérone qui diminuent en quantité au profit des hormones de type androgène, et donc ce déséquilibre peut faire que vous avez une répartition différente des poils avec des choses qui peuvent vous embêter. Et de la même façon, vous avez une peau qui est moins élastique, vous perdez 6% de l'épaisseur de la peau tous les 10 ans au moment de la ménopause, et donc vous avez le droit d'avoir des troubles de la pigmentation, de l'acné et plein d'autres choses que ce simple trouble vasomoteur qui peut déranger les femmes.
Alors vous n'arrêtez pas de nous dire qu'on a le droit d'avoir tout ça, mais on peut consulter quand même aussi, il y a des choses qui se soignent hein, en consultant quand même.
Évidemment, la médecine a fait d'énormes progrès, il suffit d'aller voir le dermatologue et il pourra vous prescrire des traitements à base de tétracycline, associé ou pas avec une autre crème à base de métronidazole lorsque le traitement n'est pas efficace. Et puis parfois, il est possible d'utiliser un traitement de fond avec du laser vasculaire. Et puis donc, n'hésitez pas, la médecine esthétique et dermatologique a fait d'énormes progrès. Ne vivez pas avec ça, ça peut évidemment être un véritable handicap social.
Merci Jimmy. À présent, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question pour vous Jimmy, hein, vraiment. On écoute donc la question de Sarah à Bayonne.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, j'ai un enfant de 3 ans, il se cogne tout le temps. Au départ, je pensais qu'il était maladroit. Et maintenant, je me dis que c'est peut-être de plus grave, en fait, peut-être un problème de vue ou un problème dans l'oreille interne. J'ai vu que c'était possible. Voilà, est-ce que vous me conseillez d'aller voir un médecin ou pas ?
Alors Jimmy, un enfant maladroit qui se cogne tout le temps, à 3 ans à peu près, c'est normal, c'est pas normal? Effectivement, est-ce qu'elle doit s'inquiéter de ce qu'elle suggère, la vue, l'oreille?
Alors ça dépend de ce qu'on appelle maladroit. Il faut savoir que l'enfant, lorsqu'il arrive à avoir l'acquisition de la marche, initialement il a un cervelet qui est immature. Et il a, de façon naturelle, un syndrome cérébelleux avec une marche titubante, des jambes qui sont plutôt écartées, donc c'est normal qu'il chute. Mais sauf qu'à 3 ans, la marche est plutôt acquise, et donc il faut toujours se méfier des enfants maladroits. Il faut différencier les enfants qui sont un peu casse-cou. Et donc, évidemment, qu'il faut l'amener voir l'ophtalmo parce que l'enfant ne va pas se plaindre du trouble visuel. Il va juste tomber de façon bizarre et répétée. Et donc, raison pour laquelle il est impératif, dès l'âge de 1 an, d'amener son enfant chez l'ophtalmo, car l'immense majorité des troubles de la vision chez l'enfant peut être réglé avant l'âge de 4 ans, que ce soit un problème de strabisme, de myopie ou d'hypermétropie.
Exactement, on en a parlé il n'y a pas longtemps.
Pour prévenir ces séquelles. Donc oui, il faut consulter parce que ça peut être un problème de vue.
Très bien, mais écoutez, merci. L'oreille, c'est possible aussi ou pas?
C'est très peu probable. En revanche, attention, les enfants qui sont maladroits, ils ont le droit d'avoir d'une dyspraxie. Donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire un bilan psychomoteur, puisque l'enfant qui est très maladroit, et puis vous dites c'est bizarre, il a 10 ans, mais il ne sait pas faire ses lacets, il n'est pas. Et bien à ce moment-là, un bilan psychomoteur permet d'être sûr que c'est peut-être autre chose qu'un trouble de la vue. Et les troubles de l'équilibre chez l'enfant sont exceptionnels, contrairement à l'adulte où c'est beaucoup plus fréquent.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Sarah qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle arrive tout de suite dans le studio, c'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Aujourd'hui Catherine, on va répondre à cette question d'Océane qui nous écrit la chose suivante. L'autre soir, mon mari m'a raconté que plus jeune, quand il était adolescent, il se masturbait avec ses amis devant un porno. Il n'est pourtant pas attiré par les hommes. Pourquoi certains garçons font-ils ça? Catherine, est-ce que c'est fréquent chez les ados de se masturber comme ça, plusieurs dans la même pièce?
Alors d'abord, c'est fréquent de se chauffer pour regarder et se dire très à l'aise et en vouloir encore et encore, et de plus en plus d'ailleurs, hein, de l'accessibilité à la pornographie, ce qui est d'ailleurs extrêmement dommageable. et se fait tellement jeune qu'il y a toujours un plus âgé qui initie le plus jeune.
Et en groupe, c'est un peu bizarre, non ? Je ne sais pas, les filles font pas ça, je crois pas.
En tout cas, les garçons, de toute façon, de tout temps, alors aujourd'hui, c'est la pornographie parce qu'elle est accessible, mais c'était mesurer son zizi, faire celui qui va faire pipi le plus loin, celui qui se masturbe le plus longtemps. Non, des expériences comme ça, tous les, encore une fois, ce n'est pas une obligation, ça ne participe pas nécessairement de la super éducation sexuelle qu'un homme peut s'offrir, qu'un jeune homme peut s'offrir, mais ça fait partie des jeux des garçons, comment ils s'évaluent en termes de combien tu fais de pompes, avec le bras de fer, avec...
C'est le concours,
voilà,
quoi,
c'est un concours, donc il n'est pas du tout question d'homosexualité, il est question d'évaluation du masculin auprès du masculin, face au masculin.
Jimmy ?
Est-ce que c'est pas une question d'accès à la pornographie ? À l'époque, c'était plutôt rare ou compliqué. Si on parle, je sais pas, dans les années 90 ou même début des années 2000. Désormais, la pornographie, bah, malheureusement, il suffit d'ouvrir son ordinateur et on n'a pas forcément besoin d'être à plusieurs. Est-ce que c'est pas tout simplement ça ? Puisque ça reste, malgré tout, même si c'était plus jeune, la masturbation, quelque chose d'assez intime. Donc, est-ce qu'on pourrait encore voir ça désormais à notre époque ? Ou est-ce que c'est un temps qui révolue et qui ne se fait absolument plus ?
Je crois que malheureusement, il y a une pression, alors pas nécessairement pour la masturbation, mais il y a vraiment une pression des garçons entre eux, de la jeunesse entre elles. Parce que là, on parle des garçons, mais c'est aussi vrai pour les filles, où on se contraint et on est contraint par les autres à participer d'une activité sexuelle autour de la découverte de la sexualité, notamment par la pornographie. Alors, c'est vrai qu'avant, il y avait un qui avait le magazine ou qui avait la cassette vidéo...
Qui partageait avec des copains.
Qui partageait. Aujourd'hui, chacun peut le faire de son côté, bien sûr, mais il y a quand même toujours ce rapport d'évaluation des garçons entre eux et de « si tu le fais pas, t'es pas un mec ». Donc, une sorte d'obligation, une sorte de bizutage extrêmement, encore une fois, délétère. Hein. C'est triste que la sexualité s'aborde par ce biais-là. Ça manque évidemment furieusement de relations, si ce n'est la relation de performance par rapport à l'autre, que l'on retrouvera ensuite dans leur sexualité, une performance dans le couple, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel.
Mais ce genre de truc, on ne l'entend pas au féminin. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait des filles qui fassent ça. Pourquoi les garçons le font et pas les filles, de se masturber comme ça en groupe, même si c'est pour tester, mesurer
Les filles font d'autres choses. Les filles font d'autres choses. C'est leur façon d'être allumeuse, de dire tu vas voir, je vais danser comme ça. Du coup, il y en a une autre qui n'aurait pas eu envie d'être et qui vont aussi se mettre dans des...
C'est pas tout à fait la même ambiance, Catherine, entre montrer son zizi entre copains et danser. On a l'impression quand même que les garçons, est-ce que c'est lié à l'adolescence ? Les garçons sont peut-être plus...
Ils sont dans la démonstration massive.
Ils sont beaucoup plus parce qu'effectivement, encore une fois, il y a des choses plus extérieures. Leur sexe étant plus extérieur, ils sont plus dans la démonstration et dans l'exhibition de cet extérieur. Mais quand même, quand je disais danser, je ne parlais pas danser tout à fait normalement. Je pense que parfois, c'est hérité d'images pornographiques extrêmement lascives qu'elles n'assumeraient absolument pas pour leur sexualité ou leur lien
à l'autre. Donc chez les filles aussi, il y a cet effet de meute un peu avec les copines.
Et d'obligation. Elles sont contraintes et elles ne sont pas tranquilles après parce qu'elles ont montré une image d'elles-mêmes qui n'est pas toujours ce avec lequel elles sont en adéquation. Donc enfin, tout ça pour dire qu'il y a de toute façon des choses où on est souvent dans des groupes sexualisés par les autres ou se contraignant à une sexualisation. Et les garçons, alors eux, c'est sans détour, en quelque sorte.
En tant que parents, certes, on ne va pas leur dire ni à son fils ni à sa fille, alors surtout, fais attention, ne fais pas des trucs avec des copains, mais comment on peut les prévenir, comment on peut leur épargner de faire des bêtises comme ça, un peu, qui peut-être ils risquent de regretter.
Est-ce que c'est une bêtise, la question ? Je ne sais pas, est-ce que c'est une bêtise, d'ailleurs ?
C'est pas une bêtise. Ce qui est une bêtise, c'est d'aller là où on n'a pas envie d'aller en un temps qui n'est pas le nôtre.
C'est ça la bêtise. C'est l'apprentissage du consentement.
Mais la difficulté, c'est qu'il est difficile de percevoir ce consentement quand vous avez 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et encore une fois, si vous avez 15 ans et que vous êtes avec des jeunes de 10 ans ou de 15 ans, c'est pas la même chose que si vous êtes avec des jeunes de 20 ans. Et toute la difficulté, c'est qu'on ne veut pas se sentir un minot. On ne veut pas se sentir pas encore abouti. Donc, du coup, on surjoue des choses. C'est ce qu'on voit aussi dans le verbe où il faut parler un langage particulier, alors qu'à la maison, on peut avoir un langage châtié. Tout d'un coup, on a un langage vulgaire à l'extérieur, même si on n'aime pas les mots que l'on emploie juste pour faire partie de la tribu. Et c'est là qu'on se fait le plus de mal. Mais en tout cas, dans cette question, aucune homosexualité qui a lieu d'inquiéter Océane.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci beaucoup Jimmy. On se retrouve bien sûr lundi à 15h. N'oubliez pas, si vous avez une question, vous nous laissez un message sur le répondeur d'Europe 1, le 3921, 50 centimes d'euros la minute, et on y répondra bien sûr dans l'émission. À présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Si je vous dis Mélanie, give me love.
Oh bah, dis donc, vous êtes bien ambitieux cet après-midi, Mathieu.
Je suis ambitieux et surtout, je reçois Bob Sinclair. Son tube Give Me Love a marqué ma jeunesse et certainement la vôtre, Mélanie. Il a continué à mixer pendant tout le confinement. Il va continuer à mixer, évidemment, cet été. Bob Sinclair est dans l'équipe Sauvage.
Super, écoutez, je serai là. Par contre, je crois que je suis beaucoup plus jeune que vous, mais c'est pas grave, hein, on dira
excusez-moi,
rien.
Excusez-moi.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci, et vous, surtout, restez sur Europe 1.